Ecclesia Magazine.
Ecclesia Magazine.
Maxime Dalle.
La musique comme moyen privilégié pour se plonger dans la méditation et le discernement, ce temps de carême. Frédéric Rentière nous propose dans les prochains jours des stages d'initiation grégorien, mais aussi de nous parler de l'Hildegard de Bingen, ainsi qu'un concert qui se déroulera ce samedi 6 avril. Alors l'ensemble musical Voxinrama va nous présenter sous la forme d'un concert didactique les chants de dévotion à Saint-Antoine Abbé, IIIe siècle après Jésus-Christ, même 4e, autrement appelé par la tradition Saint-Antoine ermite ou l'Égyptien. Peut-être que ça parle à certains de nos auditeurs, cher Frédéric, bonjour.
Bonjour Maxime.
Alors Frédéric, vous venez à nouveau sur notre antenne pour présenter, parce que vous avez effectivement une production musicale et des idées toujours plein l'esprit, pour nous présenter ce nouveau concert consacré à cette anachorète, à cet ascète, Antoine l'Égyptien.
Oui, c'est effectivement Antoine l'Égyptien a fasciné le Moyen-Âge. Il n'est pas le seul saint, bien sûr, on a Saint Roch, Saint Maurice, mais Saint Antoine l'Égyptien était très important au Moyen-Âge parce que il a vécu vraiment l'expérience du désert. Il a vécu, à l'imitation du Christ, bien sûr. Il est comme une forme d'alter Christus, on disait au Moyen-Âge, c'est-à-dire un autre Christ, un second Christ. Et en cela, ses ossements, ces reliques ont été vénérées, elles ont été transférées à Saint-Antoine, aujourd'hui Saint-Antoine de l'Abbaye. Et ces reliques donc, ont été vénérées en particulier parce qu'elles soignaient, enfin elles étaient réputées pour guérir du mal des ardents. Donc une maladie qui était contractée par un champignon parasite qu'on appelle l'ergot de seigle. Je ne sais pas si vous connaissez Maxime. Et donc du coup, cet ergot, qui est un peu en fait la base du LSD, on le découvrira bien plus tard,
ouais.
déclenchait de terribles des problèmes de gangrène, problèmes circulatoires qui entraînaient des gangrènes, et bien sûr des hallucinations. D'où le terme les ardents, justement.
D'accord.
Ils arrivaient quasiment en transe, certains malades avaient des troubles importants. Et comme Antoine lui a lutté contre le feu des démons, il y a tout un tas de légendes qui ont été développées autour, on considérait que Antoine le Grand, Antoine ermite, Antoine abbé, on dirait au Moyen-Âge, le père pas aussi considéré comme patron des abbés, patron des moines et des abbés, a aussi guérissé de ce feu. Donc on l'invoquait, on le priait, et c'est ses chants qu'on voudrait faire réentendre le 6 avril à Saint-Antoine des 15-20, justement une église où on a notamment la statue de Saint-Antoine ermite avec son cochon au pied. Il y a toute la tradition avec le cochon de Saint-Antoine. Voilà, à 20h30.
Donc on va en parler de ce concert, c'est ça qui est intéressant. Mais ça veut dire que Saint-Antoine a produit des chants.
Alors, ce n'est pas lui qui a produit des chants, c'est toute une tradition, on va dire, légendaire autour du personnage.
D'accord.
Voilà, le Moyen-Âge était. De toute façon, le Moyen-Âge est constitué en grande partie de ces légendes. Et ce qui est intéressant là, c'est les prières qu'on prononçait et les chants qu'on prononçait pour susciter l'intercession d'Antoine, pour guérir les malades. Alors, il y a le cas le plus connu aujourd'hui que je présenterai et dont on parle pas mal en ce moment parce qu'il est en restauration. C'est le retable d'Issenheim au musée Unterlinden de Colmar, qui est donc un chef-d'œuvre à la fois au niveau sculpture et au niveau peinture, peinture de Matthias Grünewald. Et ce retable lui-même rentrait dans le processus de guérison. C'est très bien expliqué d'ailleurs sur le site du musée. Et c'est ce que je souhaite mettre en lien, c'est les fresques, les peintures, les enluminures, notamment les peintures du retable d'Issenheim, et les remettre en lien avec les chants que j'ai pu redécouvrir, puisque c'est le fruit de 3 ans de recherche, notamment dans la bibliothèque de l'abbaye Saint-Antoine. Donc de Saint-Antoine de l'Abbaye, aujourd'hui, le village de Saint-Antoine de l'Abbaye, donc qui était l'abbaye Saint-Antoine en viennois, puisqu'elle dépendait avant la Révolution de l'archidiocèse de Vienne. Et ce qui est intéressant, c'est que les chanoines, au moment de la dissolution de l'ordre, les chanoines donc réguliers, qui étaient sous la règle de Saint-Augustin, ont laissé tous leurs livres de chants. Et ils n'ont pas été saisis lors des saisies révolutionnaires. Ils n'ont pas été revendus ou saisis. Et du coup, j'ai pu travailler sur tous ces livres de chants, reconstituer les chants, notamment pour Saint-Antoine.
Alors, ce qui est intéressant justement avec ces personnages, en l'occurrence comme Saint-Antoine, c'est que c'est une tradition finalement, la tradition des pères du désert, cette tradition érémitique, cette tradition d'ascèse, anachorétique, qu'on connaît assez peu malgré tout en Occident du monde.
Oui, en Occident, ça c'est sûr qu'on n'a pas la même culture de cette ascèse. C'est vrai que les Orientaux souvent connaissent très très bien, notamment saint Antoine qui est vénéré. Beaucoup d'orthodoxes viennent à saint Antoine l'Abbaye pour vénérer les reliques d'Antoine. C'est vrai que, alors, je dirais que on a perdu le contact avec ce principe-là. Avec ce principe d'ascèse qui était vénéré. Et surtout, ce qui est l'origine peut-être de la perte de cette conscience-là, c'est la perte de conscience du pouvoir des reliques. Parce que c'est quand même ça qui relie le plus au Moyen-Âge. L'homme du Moyen-Âge, surtout là en plus, c'est tourné plutôt dans les 14e, l'âge d'or de l'ordre, et puis 15e siècle, c'est déjà la décadence, mais au niveau artistique, c'est l'explosion de l'art sur Saint-Antoine, dans tous les domaines d'ailleurs, et c'est une époque où le contact avec les reliques était encore fondamental. Mmh. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a plus vraiment conscience. C'est-à-dire qu'être en conscience avec les eaux, c'est être en conscience avec le feu même qu'Antoine avait reçu du Christ. Donc c'est cette filiation-là, c'est cette connexion-là qui fait, à mon sens, qui est à l'origine de la décadence de ce type de dévotion, de vénération.
Mais justement, cette piété à l'égard des reliques, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement obsolète, désuet dans l'Église catholique? On a quand même le sentiment que, il suffit de regarder par exemple la tunique du Christ ou la couronne d'épines, on sent qu'il y a tout de même un reflux, un retour, un regain d'intérêt justement peut-être pour ces reliques. Qu'on va de plus en plus, me semble-t-il.
Oui, alors je ne suis pas très au courant, mais probablement vous êtes, j'imagine que vous êtes.
La tunique du Christ, la sainte tunique du Christ, par exemple, qui a été vénérée en 2016, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui sont venues de pèlerins, avec des orthodoxes, d'ailleurs. C'est vrai
qu'il y a souvent une présence, vous
faites bien de le rappeler. Mais on a le sentiment que ce qui a pu être considéré dans les années 60, 70, 80, peut-être comme quelque chose de désuet, d'idolâtre, voire, revient un petit peu.
Donc vous
pensez, piété populaire.
Est-ce que je me demande si c'est pas aussi là, il y a quand même un rationalisme quand même qui a pris pas mal de place dans l'Église effectivement dans les années que vous évoquez, et peut-être que maintenant il est relativisé aussi, parce que c'est vrai que tout ça a été assimilé comme à une forme d'obscurantisme, une époque où on avait des superstitions, parce que tout ça, ça a été rangé quand même, effectivement, dans la case superstition, et toute la dimension un peu aussi psychiatrique, psychologique, tout a été un peu psychologisé, analysé, et c'est vrai que maintenant, alors qu'une partie du patrimoine, là je vois par exemple pour ces chants, et pour la fonction qu'ils avaient, en lien avec la guérison, qui était forcément liée au culte des reliques, vous savez, le Saint-Vinage aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, où on utilisait les eaux d'Antoine égyptien pour sanctifier un vin qui lui était mélangé probablement avec un 14 plantes dont on a justement la présentation dans le retable d'Issenheim. Et ces 14 plantes avaient des fonctions à la fois narcotiques, cicatrisantes. Elles étaient aussi utilisées sous forme de baume avec la graisse de porc, etc. Donc tout était mêlé à ces époques-là, la médication, les traitements, les prières, les chants, la chirurgie, parce que il fallait qu'ils pratiquent les amputations, les soins, tout était lié. Bien sûr, c'était les laïcs qui prodiguaient les soins, puisque les clercs n'avaient pas le droit, n'avaient plus ce droit, mais tout était lié, et toute cette chaîne-là, elle s'est petit à petit divisée, démembrée, on pourrait dire. Et
segmentée.
Et le corps du saint, si vous voulez par là, en quelque sorte, il est un peu le symbole de ce corps ecclésial. Donc il y a de la même manière qu'il y a une perte de conscience un démembrement de tous ces corps, une séparation de toutes ces fonctions, de la même manière, moi j'y vois aussi une forme de perte de conscience de l'importance du corps, alors que ce soit le corps du Christ, que ce soit le corps d'Antoine, que ce soit le corps d'un autre saint, peu importe, puisque de toute façon tout est une question de corps et d'unité. À ce moment-là. Et donc, c'est nos mentalités aussi qui sont très, très cloisonnées. Mais maintenant, on commence effectivement, je pense que vous avez raison, on redécouvre avec une certaine fascination, notamment ces phénomènes-là, par exemple. Ou hospitalier, prière, chant, l'accueil, l'aumône, l'accueil, les soins, tout ça formait un tout. Ça nous fascine aujourd'hui, ça, quand même.
C'est ça qui est intéressant, effectivement, ce tout. D'ailleurs, que Hildegard de Bingen avait, elle aussi, proposé. C'est-à-dire qu'entre ses compositions, sa poésie, entre ses prières, entre également sa médication, ses recettes de cuisine, etc. Enfin, je veux dire, tout est... C'est un tout, là aussi.
C'est encore un tout, et c'est encore un îlot. Là, on est au 12e, mais c'est 12e siècle, mais c'est encore un îlot qu'Hildegard de Bingen a créé dans le monastère du Rupertsberg. Et effectivement, c'est la même. On repart du même système. où tout est lié. Ce qui est intéressant à Saint-Antoine de l'Abbaye, c'est qu'au XIVe et XVe siècle, on a encore ce fonctionnement-là. Mmh. On a encore cet îlot-là, qui lui-même, d'ailleurs, a attiré, il y avait beaucoup de pèlerinages, de dévotion. Et c'est finalement, on n'en parle pas souvent, on parle surtout de Compostelle. On parle, mais on ne parle pas finalement de ces pèlerinages qui avaient pour but la guérison, la grâce, etc.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques excès tout de même dans le cadre de ce long Moyen-Âge ? C'est vrai qu'on en a fait une période assez obscurantiste, alors qu'il y a des choses magnifiques qui en sont, et plus que des choses d'ailleurs, que ce soit des cathédrales à la prière ou toutes les dévotions qui ont été instituées à ce moment-là. Est-ce que malgré tout, sur la dévotion à l'égard des reliques avec ce caractère un petit peu magique quand même qu'il pouvait y avoir, eh bien, il n'est pas illogique du moins que au XXe siècle, on a essayé de d'éteindre un petit peu cette ardeur populaire pour ensuite peut-être d'ailleurs y revenir.
Oui, alors de toute façon, tout a une raison à tout. Il y a des chaînes de causes qui réactionnelles, on pourrait dire. Des abus, bien sûr, il y a eu des abus. Bon, je ne suis pas historien de l'ordre non plus. J'ai bien sûr lu pas mal de choses là-dessus. Je suis beaucoup dedans en ce moment. Et j'ai pu constater effectivement pas mal d'abus d'autorité. Mais les abus d'autorité ont toujours existé et ils existent encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y a toujours des gens qui se cachent derrière un système pour tirer les ficelles. Je pense qu'effectivement, que la rationalisme a voulu mettre un terme à la superstition et à l'instrumentalisation de la superstition, ce qui était extrêmement facile à ces époques-là, parce que les populations elles-mêmes étaient assez manipulables, peut-être probablement plus qu'avant, mais parce que moins informés, etc. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose de splendide qui a été ôté aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit justement la relation entre l'image, la vénération de l'objet, mais justement de la représentation en elle-même, et la manière dont cette représentation était connectée justement à la liturgie, ça c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est quelque chose quand même qui a une splendeur qu'on retrouve d'ailleurs chez les Orientaux, qui probablement n'a pas été rompu, mais que voilà, cette chaîne-là a été rompue. Donc du coup, aujourd'hui, après la vague de rationalisation, on est quand même orphelin de quelque chose. On sent bien qu'il y a il y a quelque chose qui était relié, il y a une unité, il y a un système cellulaire qui quand même avait quelque chose dont on a envie de récupérer quelque chose. Alors on a voulu le nettoyer de ses abus, de ses impuretés, de ses scories. Mais on voit bien aujourd'hui, le 21e siècle, c'est quand même ça par rapport au 20e siècle, c'est d'oser maintenant réenvisager ces systèmes, alors avec un regard plus critique, je dirais qu'il y avait un regard assez impitoyable finalement au regard du 21e siècle, qui ne laisse plus aucune chance justement, c'est heureux, à l'ego, aux stratégies de l'ego. Néanmoins, on n'a pas envie non plus de tout perdre. On n'a pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors qu'on jette l'eau du bain, qu'on nettoie le fond, qu'on nettoie les eaux impures, ça c'est essentiel. Mais qu'après on jette le bébé, c'est-à-dire l'âme, l'histoire, la mémoire, ça non, on ne peut pas faire ça non plus, ce serait un crime. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, justement à notre époque, et je pense qu'on est bien dans notre époque justement quand on va dans ce sens-là, c'est d'oser redécouvrir ces traditions, dont bien sûr dans ce qu'elles ont de lumineux, dans ce qu'elles ont de porteur et dans ce qu'elles ont de constructif pour nous qui sommes quand même souffrons d'un démembrement. Voilà.
Alors, avant d'évoquer peut-être d'une manière plus précise le concert qui va se dérouler ce samedi 6 avril à 20h30, je le rappelle, à l'église Saint-Antoine des 15-20, donc consacré au chant de dévotion à Saint-Antoine Abbé, j'aimerais peut-être, vous avez utilisé ce mot, cher Frédéric Rentière, splendeur. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut rattacher de fait au Moyen-Âge, et beaucoup peut-être d'auditeurs ne connaissent pas forcément ce répertoire musical médiéval que vous êtes, pas l'un des seuls, mais presque tout de même, à remettre au goût du jour, moins en France.
Il y a bien sûr, aujourd'hui, le chant médiéval, maintenant, quand même très, alors popularisé, j'irai pas, peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas, démocratisé. Oui, démocratisé, de manière d'ailleurs assez admirable. Mais alors après, il y a plusieurs approches. Il y a des approches qui sont purement, musicologiques et bien sûr artistiques. C'est indissociable, bien sûr, dans la pratique. Il y a des approches plus patrimoniales. Moi, ce que j'essaie de faire, la particularité de Voxinrama, je pense, dans le contexte actuel, c'est de vouloir relier toutes les formes d'art, parce que pour moi le Moyen-Âge ne peut pas vraiment se vivre et s'expérimenter, se réexpérimenter, si on ne le reconnecte pas au réseau dans lequel ça se constitue. Par exemple, les chants qu'on va chanter samedi, c'est des chants qui sont dans un réseau. C'est des chants qui sont dans un réseau de représentation, dans un réseau de croyances, dans un réseau de légendes. C'est aussi la Vita, justement, d'Antoine, qu'Athanase d'Alexandrie a écrite, qui a quand même va être le substrat. Et puis après, tous les développements légendaires autour. Et on voit bien cette imagination foisonnante, ce voyage, parce que c'est ça qui sera proposé. C'est un voyage dans les représentations. C'est de voir à quel point les tentations, notamment d'Antoine, je crois que... On connaît, on a forcément entendu parler à un moment donné des tentations d'Antoine, qu'on comprend guère plus d'ailleurs aujourd'hui. C'est important de replonger dans ces tentations, de comprendre ce que c'est que l'expérience qu'a vécue cette anachorète et pourquoi on en parlait tant au Moyen-Âge, pourquoi elle a tant fasciné, pourquoi on a tant peint, écrit dessus et pourquoi on a tant chanté aussi ces tentations et invoqué le pouvoir d'Antoine. Parce qu'effectivement, ces tentations, c'est une phase, on pourrait dire, de sublimation. On pourrait dire de domestication, je ne sais pas si le mot va parler aux auditeurs, où on rentre en tout cas, où on commence à essayer de prendre en main des instincts qui peuvent, bien sûr, son créateur participe aussi à la génération, aux générations, mais qui peuvent aussi être dangereux. Donc du coup, c'est tout un rapport à l'instinct, tout un rapport au monde inconscient, aujourd'hui on parle plutôt de l'inconscient, qui lui est en fait le fond de la question justement des tentations, dans l'épisode des tentations. Et quand on voit ces magnifiques représentations, notamment dans le retable d'Isenheim, on voit bien que le travail artistique descend en profondeur dans la psyché humaine, que c'est quelque chose qui n'est pas superficiel du tout, les tentations. C'est pas juste une histoire de repousser la sexualité ou d'un moine complètement coincé qui se dit « Oh là là, moi qui a peur de tout ». Non. Il y a un vrai défi, et c'est un défi chrétien d'ailleurs, qui est vraiment particulièrement chrétien, et qui est intéressant parce qu'on est à une époque où on mélange un peu tout et on a dit, bon voilà, il y a ceux qui refusent, il y a ceux qui ont un problème avec le corps, il y a ceux qui veulent se réfugier dans le monde immatériel, de l'âme, etc. Non, c'est pas si simple en réalité. Quand on a le courage de se remettre dedans, on se rend compte que c'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus connecté à la réalité.
Alors Frédéric Rentière, est-ce que d'ailleurs le répertoire et les chants de dévotion que vous allez proposer ce samedi autour de Saint-Antoine Abbé ressemblent sur le plan musical, tout simplement, au chant d'Hildegard de Bingen que vous avez interprété avec votre ensemble musical?
Alors, on est dans une culture commune, c'est pas la même époque, puisque là, on va plutôt... Le rayonnement du culte Saint-Antoine, c'est 15e siècle, centre-milieu 15e siècle. Et en fait, on n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans la même esthétique du tout, on n'est pas dans le même type d'ordre. Hildegard était bénédictine, là, on est dans un ordre canonial. Et en plus, qui est hospitalier, particulier, avec donc des rituels propres, justement, à une pratique hospitalière. Donc on n'est pas dans les mêmes contextes. Bien sûr, il y a un lien, c'est le latin. Bien sûr, il y a un lien, il y a forcément des liens, sauf que les mélodies de Hildegard sont complètement exotériques, complètement différentes de ce qui se faisait à l'époque. Donc c'est pas vraiment comparable, mais les liens, c'est que bon, ben on a encore des neumes, on a encore une écriture, ce qu'on appelle les neumes, c'est-à-dire les premiers signes de notation. Bon, là on n'est plus à l'époque des premiers signes, mais on est encore dans cette culture-là. Voilà.
Alors Frédéric, je vous propose peut-être, parce que c'est vrai que en l'espace de 26 minutes, on a le temps aussi de découvrir votre travail. Vous avez commis un superbe CD avec votre ensemble justement consacré à Hildegard de Bingen. On va en parler deux minutes quand même de ce CD qui est toujours disponible.
Oui, bien sûr, sur voxinrama.com.
Sur voxinrama.com avec cet extrait.
Sur Spotify, il est aussi, on peut le trouver sur tous les... le télécharger aujourd'hui, la musique se télécharge.
Alors cet extrait qu'on a choisi ensemble, O Splendid Dissima Gemma, peut-être pouvez-vous nous le présenter en quelques instants.
Alors là, c'est une méditation sur la gemme. Gemma, on reconnaît le mot qu'on a aussi en français, la pierre précieuse, et une pierre précieuse qui est comparée à Marie, en fait, à la Vierge Marie.
On l'écoute. Thank you. Très apaisant aussi. Hein. C'est vrai qu'on l'a souvent dit, Frédéric, mais cette musique d'Hildegard de Bingen du XIIe siècle est quelque chose qui est un peu envoûtant d'ailleurs, comme ça,
oui.
qui
nous, mais je pense qu'elle emmène dans les... parce qu'elle a le temps. Oui. Elle prend le temps. Et chaque mot est dilaté. On est dans un espace-temps complètement beaucoup plus souple. Et c'est un espace-temps, effectivement, on peut se recentrer, on peut méditer.
Donc j'invite les auditeurs à découvrir justement tout ce répertoire musical d'Hildegard de Bingen avec le CD que vous avez produit avec votre ensemble musical, disponible donc sur voxinrama.com. Alors Frédéric, peut-être pour les quelques petites minutes qu'il nous reste, d'ailleurs pourquoi on n'a pas pu entendre aujourd'hui des chansons, des chants de dévotion à Saint-Antoine Abbé, on aurait bien aimé?
Parce que ce sont des chants qui n'ont pas été enregistrés, tout simplement, que j'ai redécouvert récemment et qu'on va chanter pour la première fois samedi, justement, à Saint-Antoine des 15-20, et qu'on va enregistrer à Saint-Antoine-l'Abbaye dans l'église abbatiale de Saint-Antoine, donc en Isère, à côté de Saint-Marcellin. Et donc l'objectif, donc là on a des souscriptions qui viennent d'ailleurs d'être clôturées et maintenant on commence à peine, on démarre un financement participatif pour pouvoir enregistrer ces chants qui n'ont jamais été enregistrés et qui puissent après être diffusés et être connus, puisque finalement le chant des Antonins a complètement disparu au XVIIIe siècle.
Alors d'ailleurs, c'est ce concert là qui est donné ce samedi 6 avril à 20h30. Tout le monde peut y aller. Comment ça se passe? Il faut s'inscrire?
Alors, tout le monde peut venir. Voilà, on a mis un système de pré-réservation, 13 euros au lieu de 15 euros pour les pleins tarifs. Mais on peut tout à fait venir, on n'est pas obligé de pré-réserver. C'est bien sûr, tout le monde peut venir. C'est un concert en plus didactique. Donc didactique, j'explique, c'est qu'on va justement, on va projeter des enluminures, on va projeter des fresques, on va projeter des peintures. Et on va voyager dans les images, dans les ambiances. Dans les représentations médiévales, et les chants après que j'ai pu reconstituer vont nous faire voyager à la fois dans l'espace des lumières, des couleurs, des ombres et des lumières, et des textes, parce qu'on va aussi relire des textes. C'est très important de se remettre dans les sources, repartir de ce qu'avaient les gens au Moyen-Âge, et puis les chants qui eux sont vraiment, vont pouvoir reprendre leur place dans ce réseau là.
Là encore, c'est une totalité entre les textes, les chants, les enluminures, les peintures
toujours,
également.
Toujours.
Je pense que vous montriez quelques peintures pendant l'extrait d'Hildegard.
Voilà. Et là, par exemple, la magnifique abbaye de Saint-Antoine-l'Abbaye, elle est quand même belle. Hein, on peut pas. Voilà.
Magnifique.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, voilà, l'hôtel notamment avec le maître-autel avec les reliques d'Antoine qui sont vénérées. Bon, c'est le jour de l'Ascension. Bon, c'est très intéressant de reconnecter aussi, bien sûr, aux légendes, aux histoires, la manière dont on décrivait, aussi décoder les gestes, comment tous ces gestes qu'on trouve dans les enluminures, qui sont un langage corporel très très précieux et qui montrent la relation justement entre le divin et le terrestre, parce que le chant lui-même, les chants qu'on va chanter, sont des chants qui étaient dans des rituels, dans des messes ou dans des offices, et qui eux-mêmes étaient toujours, avaient une fonction de déclencher une intercession. Antoine est toujours présent. C'est le patron de l'ordre, il est toujours présent, il veille, il est protecteur, et en même temps, c'est lui qui fait la jonction entre le Christ et les hommes. Donc, toutes ces représentations, toute cette, j'employais un terme un peu savant, cosmologie, on pourrait dire, cette science du monde, il faut bien la réintégrer, parce que si on ne la réintègre pas, on passe un peu à côté, finalement. On a une vision très parcellaire.
Est-ce qu'il en existe encore des Antonins, d'ailleurs, aujourd'hui?
Non, alors, je crois que si. Alors, je crois qu'il en existe encore en Orient, en fait. Ouais. Alors là, je ne suis pas très bien renseigné, je ne vais pas vous donner des renseignements très précis. Mais en tout cas, l'ordre Antonin en lui-même, lui, a été dissous. Donc, en Occident, il n'y a plus d'Antonins. Non.
Enfin, en tout cas, merci, cher Frédéric, de nous faire découvrir tout ce répertoire musical qu'on connaît finalement assez peu. C'est le moins qu'on puisse dire, celui d'Hildegard de Bingen, celui de Saint-Antoine Abbé, de tous ces chants de dévotion qui ont été créés entre le 14e et le 15e siècle, c'est bien cela. Peut-on, d'une manière ou d'une autre, vous aider? Parce que j'imagine que pour monter une telle entreprise d'enregistrement, de CD, de chansons, de musique, il faut un financement, ça c'est évident, pour faire un beau travail d'enregistrement et artistique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, comme j'ai pu le dire, il y a le financement participatif Eloasso, hein, va démarrer probablement cet après-midi. Et donc, on est au tout début, mais sur le site voxirma.com, mais aussi sur le site dont fait ce projet en collaboration avec l'Association française des Amis des Antonins, qui ont déployé beaucoup d'énergie et qui eux-mêmes donc aussi portent ce projet. Et donc, sur le site de l'Association française des Amis des Antonins ou Amis des Antonins, ou sur le site voxinrama.com, l'appel à financement, et bien sûr sur le site Eloasso, hein, vous avez tout à fait la possibilité de soutenir ce projet. D'ailleurs, le 6 avril, au concert, on proposera au public de participer activement au projet. Bien sûr, tout un système de contreparties sont déjà mises en route, des gratifications. Ce qui est important, c'est aussi de se rendre compte de l'importance patrimoniale et de la mémoire aussi de ce projet.
Pour faire redécouvrir tout ce beau répertoire médiéval qu'on connaît finalement assez peu.
Pourquoi pas le chanter aussi d'ailleurs avec le diocèse de Grenoble. On a tout un projet qui est lancé et le jour de l'Ascension seront chantés ces chants. C'est très important.
Merci cher Frédéric.